Il est 8h.
Nous avons maintenant deux vaccins qui ont près de 95% d'efficacité. Nous devons maintenant convaincre les gens, par notre transparence, de se faire vacciner.
L'enthousiasme du docteur Anthony Fauci, le très réputé immunologue qui conseille la Maison-Blanche depuis des dizaines d'années, après les annonces coup sur coup de deux vaccins américains au taux d'efficacité extrêmement prometteur. Et ce matin, sur Europe 1, on s'interroge sur ceux qui sont pour l'instant les absents de cette communication triomphale, les labos français. Où en sont Sanofi et Pasteur, page spéciale dans ce journal. Les différences sanitaires, l'immense enjeu économique et les stratégies en Allemagne, en Chine et aux États-Unis. Et puis dans ce journal, le bilan de santé de la SNCF après la grève du siècle et la pandémie qui a stoppé l'économie.
En plus du bilan de la SNCF, pourra-t-on prendre un train à Noël et dans quelles conditions? Le PDG de la SNCF, invité d'Europe Matin après ce journal, Jean-Pierre Farandou, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
90%, 92, 95, qui dit mieux en termes d'efficacité? Après Pfizer, après les Russes de Gamaleya, ce sont à nouveau des Américains, Moderna, qui ont peut-être fait l'histoire hier avec l'annonce d'un vaccin encore plus probant et qui ne demande pas une température polaire pour sa conservation.
Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour.
Qu'en est-il de la France? Où en sont les laboratoires français? Ils ne sont pas aussi proches de la ligne d'arrivée.
Effectivement, il n'y a aucun Français parmi les 11 vaccins en phase 3. Les vaccins de Sanofi, GSK et Merck Pasteur sont eux aussi déjà testés sur l'homme, mais à plus petite échelle. Alors pourquoi ce décalage? C'est à cause du contenu du vaccin. Dans le vaccin de Moderna et Pfizer, on trouve de l'ARN messager, donc un code génétique qui éduque l'organisme contre le coronavirus. Et ça, c'est plus rapide à produire que de concevoir un vaccin à partir d'une protéine, comme le fait Sanofi, ou à partir d'un virus de la rougeole modifié, comme le fait l'Institut Pasteur.
Est-ce que le fait que parmi les premiers vaccins homologués, il n'y ait pas de Français, est-ce que c'est mauvais signe, Anne?
Alors non, pas forcément. Déjà, comme il faut vacciner quasiment toute la planète, 6 ou 9 mois de décalage, c'est peu. Et il y aura de la demande pour tous les vaccins efficaces. Ensuite, les vaccins français ont plusieurs atouts. D'abord, celui d'utiliser des technologies éprouvées. On a du recul sur la réponse immunitaire et sur les effets secondaires. Ensuite, pas besoin de gros congélateurs puisque ces vaccins se conservent entre 2 et 8 degrés. Et puis, il y a l'outil industriel. Pasteur s'est associé à l'américain Merck qui possède de gros sites de fabrication. Sanofi va produire ses doses de vaccins dans ses propres usines en Europe et aux États-Unis. Ça va aller très vite. Sanofi espère entamer les essais de phase 3 dès le mois prochain. Et si tout va bien, le laboratoire assure qu'il sera en capacité de fournir 1 milliard de vaccins entre avril et décembre 2021.
Alors Anne Le Gall, vous le disiez, on a besoin de plusieurs vaccins qui auront d'ailleurs forcément chacun sa spécificité.
Et d'ailleurs, c'était intéressant ce que disait sur Europe 1 au micro de Patrick Cohen hier, la présidente du comité scientifique vaccin Covid-19. Écoutez, Marie-Paul Kiani.
Ces vaccins pourraient avoir en fait des caractéristiques différentes. On pourrait avoir des vaccins très efficaces chez les jeunes et qui le sont moins chez les personnes vulnérables et âgées qu'on voudrait protéger. Certains qui seraient plus efficaces que d'autres à bloquer la transmission à partir des personnes qui seraient infectées malgré la vaccination. Donc c'est très bien qu'il y ait plusieurs de ces produits qui progressent vers la mise sur le marché.
On comprend bien que la course au vaccin n'est pas finie et qu'on a besoin de tout le monde sur la ligne d'arrivée. Bonjour Emmanuel Duteil.
Bonjour.
Chef du service économie d'Europe 1.
Emmanuel, on entend parler de production en milliards de doses à l'échelle mondiale. Est-ce que la France aura sa part dans ces livraisons?
Oui, et déjà la France a mis de l'argent de côté. Le gouvernement a provisionné 1,5 milliard d'euros pour acheter des doses. C'est beaucoup sur le papier, c'est même énorme, mais la facture pourrait s'avérer beaucoup plus lourde. Selon le journal Les Échos, le gouvernement a sécurisé 90 millions de doses auprès de 7 fournisseurs. Ça ramène la dose à 17 euros, ce qui n'est pas exorbitant comme prix. Si le vaccin devait être plus cher, la facture pourrait alors exploser. Oui. En tout cas, si les laboratoires sélectionnés par la France devaient réussir à trouver tous assez rapidement un vaccin, eh bien cette commande pourrait permettre de vacciner, selon les spécialistes, 45 millions de personnes. Pour certains vaccins, il faudra en effet 2 doses par personne. Il faut bien se rendre compte que ce serait l'une des plus grosses campagnes de vaccination de tous les temps en si peu de temps, avec la variole dans les années 50 et le H1N1 en 2009. En tout cas, vacciner à grande échelle, c'est indispensable pour que ce soit efficace.
Emmanuel Duteil, Anne Le Gall, vous restez en studio. On tourne ensemble les pages de ce dossier spécial. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Cette vaccination à grande échelle dont on vient de parler, on imagine, Pierre, la logistique, l'architecture que ça peut demander. Est-ce que la stratégie de la France là-dessus est au point?
Alors, pas encore, mais on y travaille. Première décision très concrète, l'achat de 50 super congélateurs pour stocker à moins 80 degrés les vaccins qui en auraient besoin, comme ceux de Pfizer. Ensuite, pour ce qui est de la stratégie générale de vaccination, on en est toujours au stade de la réflexion. Le gouvernement a missionné la Haute Autorité de Santé il y a 4 mois déjà. Les conclusions sont attendues pour début janvier, mais un certain nombre de recommandations ont déjà été formulées. D'abord, vacciner en priorité les personnes à risque, âgées, fragiles ou malades, le personnel soignant et leurs familles aussi. La Haute Autorité de Santé préconise également une mise à disposition gratuite du vaccin sans le rendre obligatoire pour autant. Enfin, elle demande à ce que les pharmaciens et les infirmiers soient habilités à l'injecter. Reste alors à définir les modalités pratiques. Où les doses de vaccin seront-elles stockées? Où pourra-t-on se faire vacciner? C'est là que l'Allemagne, par exemple, a de l'avance sur nous. Là-bas, 60 entrepôts de stockage ont déjà été identifiés, des casernes, des hôpitaux, tout comme des centres de vaccination, notamment le Palais des Congrès de Berlin, censé pouvoir traiter 20 000 personnes par jour.
Merci Pierre Herbulot. Vous parliez de l'Allemagne qui se prépare. Voyons comment la Chine est déjà prête. Avec vous Sébastien Lebelzig, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Pékin. Plusieurs labos chinois travaillent sur un vaccin. Ils en sont à la phase 3, les tests cliniques, mais la vaccination est déjà lancée, Sébastien.
Oui, c'est une campagne de vaccination aussi massive que discrète qui a été lancée ces dernières semaines par le gouvernement chinois. Plusieurs centaines de milliers de personnes, peut-être un demi-million selon certaines sources, se sont vues injecter un des 4 vaccins chinois encore en phase de test. 2 injections à 28 jours d'intervalle pour un coût total de 51 €. Les laboratoires chinois sont persuadés en effet de l'efficacité de leurs produits. Alors pas question d'attendre. Écoutez Yu Shufeng, il est président du laboratoire CanSino.
Je pense que vous pouvez voir que la Chine est en avance. Le Covid-19 sera certainement la vitrine des vaccins chinois pour montrer leur capacité et montrer également leur contribution à la santé publique dans le monde.
Voilà, on l'appelle ici un programme d'urgence, mais vous l'avez compris, il est surtout question là de fierté nationale. Des militaires, des diplomates, des médecins, mais aussi des commerçants et des étudiants amenés à voyager à l'étranger ont déjà été vaccinés. Les experts de l'Organisation mondiale de la santé appellent à la plus grande prudence, mais la production ici est déjà lancée. La Chine pourrait vendre 1 million de doses dès cette année.
Sébastien Lebelzig en ligne de Pékin pour Europe 1.
Alors Anne Le Gall, on entend ce qui se passe en Chine, même sans être un spécialiste, ça ne semble pas vraiment se faire dans les règles de l'art.
Oui, vacciner massivement avant la fin des essais cliniques, ça laisse sceptiques beaucoup d'experts internationaux. Ils jugent cette vaccination prématurée au vu de nos critères de sécurité à nous.
Emmanuel Duteil, la raison de cette course au vaccin, au-delà de l'enjeu sanitaire, au-delà de l'enjeu aussi pour les labos.
D'ailleurs, attendez, on va écouter ces applaudissements, François. Oui. C'était à la clôture de Wall Street hier soir. Ambiance des grands jours à la bourse américaine.
Alors ça, c'était après le bond des compagnies aériennes ou de chaînes d'hôtels. Avec le vaccin, donc Emmanuel, on a là un enjeu économique majeur.
Oui, on entend la cloche. Pourquoi ? Parce que hier, on a tout simplement battu des records historiques. On n'a jamais terminé plus haut. Qu'est-ce qui t'est arrivé hier soir sur les marchés américains ? Pourquoi ? Parce que si les vaccins sont efficaces, c'est l'économie mondiale qui pourrait être dégrippée. On pourrait aussi citer à Paris Unibail, leader mondial des centres commerciaux, qui a gagné quasiment 20% hier. Air France qui a pris plus de 10% hier. C'est dire vraiment l'espoir que suscitent ces vaccins. Tous les économistes sont d'accord sur un point. Grâce à un vaccin mondial, on peut espérer un rebond très rapide de l'économie. Il y a un seul delta à ça. Il faut les trouver très vite parce que si l'économie, en revanche, est trop abîmée au moment où ça arrivera, bah là, bien évidemment, ça mettra du temps à repartir.
Un vaccin anti-Covid et anti-crise, donc. Merci Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Merci Anne Le Gall, du service société de la rédaction.
Et vous allez voir qu'aux États-Unis, on se pose exactement les mêmes questions sur la distribution des futurs vaccins, d'autant plus avec cette transition impossible entre deux présidents, l'un élu, l'autre qui prétend ne pas être battu et qui est encore en place, quoi qu'il arrive, pour 2 mois.
Bonjour Xavier Yvon.
Bonjour.
Joe Biden met la pression sur Donald Trump, qui refuse toute coopération.
Oui, et ce refus de coopérer de Donald Trump peut avoir des conséquences très graves, explique Joe Biden.
More people may die.
Davantage de gens risquent de mourir, a déclaré le président élu. L'épidémie de Covid-19 a déjà tué près de 247 000 Américains et le nombre de cas explose partout dans le pays en ce moment. Certes, les progrès des vaccins sont une bonne nouvelle, dit Joe Biden.
How do we get over 300 million Americans vaccinated?
Mais comment va-t-on le distribuer à 300 millions d'Américains, demande le futur président.
What's the game plan?
Quel est le plan? L'administration Trump dit en avoir un avec son opération baptisé Vitesse de la Lumière. Mais si nous devons attendre l'investiture le 20 janvier pour le mettre en œuvre, ça va tout retarder, s'inquiète Joe Biden. Il faut de la coordination dès maintenant. Or, il n'y en a aucune, contrairement à l'usage qui veut que l'administration sortante transfère les dossiers importants aux équipes du nouveau président. Donald Trump se félicite juste que les vaccins aient été développés sous son contrôle, écrit-il dans un tweet, et il demande, je cite, à ce que les historiens s'en souviennent.
Les historiens, et nous aussi en l'occurrence, on se souviendra du mandat de Donald Trump. Merci Xavier Yvon, en ligne de New York pour Europe 1. 8h10, le PDG de la SNCF sera dans ce studio avec Sonia Mabrouk dans 5 minutes. Bonjour Aurélien Fleureau, spécialiste des transports de la rédaction.
Bonjour.
La plus longue grève de son histoire, c'était il y a presque un an, mais depuis il y a eu bien pire que cela avec le Covid. Aujourd'hui, Aurélien, comment va la SNCF financièrement ?
Ah, la situation est préoccupante, hein. Les comptes sont dans le rouge vif. À fin septembre, le chiffre d'affaires a baissé de 5 milliards d'euros et il faut bien se rendre compte qu'en ce moment, plus aucune ligne n'est rentable. Ces pertes sont loin d'être épongées par le plan de relance ferroviaire du gouvernement puisque sur les 4,7 milliards d'euros, tout ne revient pas entièrement à la SNCF et surtout une très grande partie, 3,8 milliards, est consacrée au réseau, à la modernisation des voies. Cela permet donc de poursuivre les investissements mais pas de compenser les colossales baisses de fréquentation. À ce stade, Jean-Pierre Farandou ne demande pas de deuxième recapitalisation. Il met l'accent sur les gros efforts de productivité consentis qui, avec la mise en place du chômage partiel, ont permis de réaliser 1,5 milliard d'euros d'économies.
Et Aurélien, à un mois des vacances de Noël, les réservations sont spécialement faibles.
Oui, avec 55% de retard par rapport à une mi-novembre habituelle. Nous sommes évidemment très loin du rush classique de fin d'année. En général, début octobre, l'ouverture à la réservation des billets pour Noël, c'est toujours un petit événement. Cette année, c'est passé inaperçu. Alors, pour rassurer les Français qui voudraient voyager en train, la SNCF assure que tous les billets réservés jusqu'au 4 janvier seront remboursables sans condition et que si la situation sanitaire le permet, l'offre sera normale. S'il y a un pic de réservation, la SNCF l'imagine plutôt vers la mi-décembre, pas avant. C'est devenu la norme. En ce moment, les clients achètent leurs billets au maximum 8 jours avant leur départ.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Un peu de musique ce matin. Vous l'entendiez dans le journal de 7h30. Barack Obama publie le premier tome de ses mémoires.
L'ancien président américain qui en a aussi profité pour dévoiler la playlist de sa présidence.
Sir Duke. Évidemment un classique de Stevie Wonder.
On retrouve aussi Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Jay-Z, Beyoncé et les Beatles. Ah, Michelle, sans doute, peut-être, un clin d'œil à sa femme, Michelle Obama, ça fera aussi vendre ses mémoires à elle.
Vous interprétez là, vous interprétez. François Geffrier, merci beaucoup, c'était le journal de 8h sur Europe 1.